Le soleil devrait s'imposer au sud. Demain matin, il fera entre 8 et 17 degrés. L'après-midi, les maximales iront de 19 à 31 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun. À la technique, il y avait Grégory Wallon. 18h20 sur France Culture, vous retrouvez Quentin Lafay pour les questions du soir.
Merci beaucoup Stanislas Vazak et bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Questions du soir, 1h30 consacrée à l'actualité, au débat, aux idées et aux découvertes. Et à 19h, dans l'actualité vue par les idées et la recherche, alors qu'en cette rentrée scolaire, des évaluations seront proposées à tous les élèves de 6e pour tester leur capacité physique. Une question, l'EPS est-elle une discipline comme les autres? On en parlera avec Sarah Pochon, elle est enseignante, chercheuse, maîtresse de conférences en STAPS à l'université d'Artois. Mais pour l'heure, place au débat démographique ce soir.
France Culture, question du soir. Quentin Lafay.
Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la France enregistre plus de décès que de naissances. Alors, comment aborder la question démographique? Faut-il s'en inquiéter? Quel impact sur notre modèle économique, sur notre modèle social également? Et quelles solutions pour y faire face? Pour en discuter, trois invités ce soir. Maxime Sabzbaï, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, directeur stratégique du club Landois, expert associé à l'Institut Montaigne et l'auteur du livre intitulé « Les balançoires vides » qui a paru en janvier dernier aux éditions de l'Observatoire. Face à vous, Sébastien Olivaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe des populations, directeur de la Maison des sciences sociales et des humanités de l'Université Paris-Saclay, co-auteur du livre intitulé « Dynamique du peuplement mondial, comment la population habite le monde » qui a été publié en 2025 chez East Edition. Et avec nous à distance, Sandra Bré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historienne et démographe, chercheuse au CNRS, au laboratoire LARA, c'est le laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes. Merci à vous trois d'être présents ce soir dans Questions du soir.
Moins de bébés en France. L'INSEE vient de publier le bilan 2024 des naissances. Ce sont des données consolidées qui confirment une nouvelle fois la baisse de la natalité en France.
660 000 bébés ont vu le jour en 2024. C'est 158 000 de moins qu'il y a 10 ans. Une baisse de la natalité qui concerne toutes les régions, y compris les départements d'outre-mer.
L'année dernière, Emmanuel Macron avait lancé un grand plan contre l'infertilité, appelant dans le même temps un réarmement démographique.
En mai dernier, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, l'INSEE a relevé un solde naturel négatif, ce qui signifie plus de décès que de naissances.
Et une citation pour commencer, voilà ce qu'écrit Raymond Aron dans ses mémoires. « Les Européens sont en train de se suicider par dénatalité. Les peuples dont les générations ne se reproduisent pas sont condamnés au vieillissement et du même coup, guettés par un état d'esprit d'abdication de fin de siècle. » Fin de citation. Alors Maxime Sbahi, Aron lucide ou Aron pessimiste ?
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'Aron, il finit ses mémoires comme ça. Hein. Cette citation, c'est je crois dans les dernières pages de son livre. Et c'était dans les années 80. Comme quoi, vous voyez, ces débats-là, ils sont pas tout à fait nouveaux. Et en fait, quand on regarde, ils sont dans le débat public, revenus, repartis, en fonction des courbes démographiques qui elles-mêmes ont évolué, en fonction des guerres, des famines, des épidémies.
Ils ne sont pas nouveaux, mais globalement, ils sont quand même sous les radars. On en entend peu, relativement peu parler.
Alors en France, quand vous allez en Italie ou en Allemagne, je vous garantis que ces sujets-là, ils sont au centre du débat public. L'Italie perd 300 000 habitants par année, hein, c'est-à-dire qu'il y a 300 000 décès de plus que de naissances, donc ils sont déjà en solde naturel négatif. Nous, en France, effectivement, on est en train d'y arriver. Alors, c'est assez étonnant d'ailleurs que ça arrive aussi vite, puisque dans les prévisions de l'INSEE, ça devait arriver dans 10 ans. Mm-hmm. Et là, effectivement, quand on commence à suivre donc en glissement annuel, donc sur les 12 mois, on voit effectivement que ça y est, on est en train de basculer. 2025, probablement, sera l'année du basculement en solde naturel négatif. Et c'est la première fois que ça arrive depuis, si on enlève la guerre, depuis les années 30. Donc c'est un tout nouveau régime démographique. Pourquoi ? C'est très simple. Vous avez d'un côté une courbe des décès qui augmente assez naturellement, assez mécaniquement avec le vieillissement de la population et l'arrivée de ce qu'on appelle les baby-boomers à des âges de plus forte mortalité. Les premiers boomers ont aujourd'hui 80 ans cette année. Et de l'autre côté, vous avez une courbe des naissances qui, là, pour le coup, s'est effondrée. Moins 24% en 15 ans, donc c'est pas rien, et qui s'est tellement effondrée qu'elle est venue rejoindre finalement cette courbe ascendante de l'autre côté. côté. Tout ça n'était pas tout à fait dans les radars il y a 10 ans ou il y a 15 ans, où on n'aurait pas eu ce débat, puisque la France, il y a 15 ans, faisait encore beaucoup d'enfants, était le pays de l'exception démographique, et avec un taux de fécondité de 2 enfants par femme en moyenne. Donc on était plutôt le pays qui se portait bien, et d'ailleurs des délégations étrangères se pressaient aux portes de nos ministères pour comprendre comment la France faisait pour résister à la dénatalité.
On va revenir sur ces tendances que vous décrivez, mais je reviens tout de même sur les mots d'Aron. Ils sont forts, ils sont même frappants. Un état d'esprit d'abdication, de fin de siècle, c'est ce à quoi nous sommes voués ?
Moi, je pense qu'il y a des impacts économiques et sociaux très forts. Je pense effectivement que ça a un impact sur la culture d'un pays. Et que la France des années 60-70, qui était une France en plein baby-boom, qui était une cour de récréation grouillante, bruyante d'enfants, n'a plus rien à voir avec une France d'aujourd'hui où les maternités sont en train de se vider, les écoles sont en train de se vider. Je vous rappelle qu'on a fermé 6000 écoles depuis 2010, qu'on a perdu un demi-million d'écoliers dans les écoles élémentaires depuis 2010, et les enfants se raréfient. C'est vraiment ce qui est en train de se passer. La jeunesse, les enfants se raréfient. Et oui, c'est peut-être pas étranger au fait qu'on passe notre temps à devenir nostalgique, à dire que c'était mieux avant, à faire en sorte que l'avenir n'est plus vraiment un espoir. Je pense que ça, c'est aussi tout à fait lié à la structure, à la composition démographique du pays.
Sébastien Olivaux, est-ce que vous partagez ces inquiétudes, les inquiétudes liées à la transformation en profondeur, on l'a compris, du corps social français ?
J'ai un naturel plus optimiste et je pense qu'on va beaucoup insister sur les dangers de cette dénatalité, mais ça apporte aussi d'autres éléments qui peuvent être vus de façon beaucoup plus positive, aussi bien du point de vue économique que du point de vue social.
Lesquels alors ?
Tout bête, ça veut dire une redistribution des richesses au bout d'un moment. C'est-à-dire que pour l'instant, le capital, il est accumulé par les plus anciens. Quand les plus anciens vont disparaître, ce capital, il va être redistribué. Si au lieu d'être redistribué entre 3 ou 4 personnes, il est redistribué entre 1 ou 2 personnes, ces personnes-là vont se retrouver plus riches. C'est assez mécanique. Donc il y a aussi ces aspects-là. L'empreinte... On discutera des chiffres tout à l'heure sur la baisse, parce que la baisse va pas être non plus... On est dans un moment de bascule, qui est un moment de bascule symbolique, mais la baisse de la population, elle va pas avoir lieu tout de suite, elle va pas être très violente. Donc on est plutôt sur un moment de stagnation qui a en fait déjà été amorcé. Donc de mon point de vue, on est dans une rupture symbolique et on voit bien, ça va choquer, ça choque une partie du personnel politique français qui est finalement un petit peu sous-cultivé en termes de démographie, on va se le dire. Mais quand on trace les lignes, elles chutent pas. Alors les lignes des naissances, elles chutent, mais les lignes de la population globale, elles chutent pas. Donc c'est pas forcément, c'est pas une catastrophe qui arrive. Et ça peut aussi avoir des bons côtés par ailleurs sur l'accès au logement, par exemple.
Sandra Bray, on va revenir sur l'ensemble des sujets évoqués, mais Sandra Bray, cette angoisse qui peut, j'allais dire, traverser une partie de la classe politique française aujourd'hui, elle n'est pas nouvelle. La France, elle a eu affaire à plusieurs reprises, justement, à ce défi démographique.
Oui, tout à fait. En fait, la France a une histoire démographique particulière et notamment de sa fécondité. C'est le premier pays du monde à avoir vu sa fécondité baisser. Alors, il y a des bas, mais on va dire entre le milieu et la fin du XVIIIe siècle. Mmh. Alors, au départ, il n'y a pas vraiment de préoccupation. Au contraire, encore au début du XIXe siècle, il y a une phrase très connue de Jean-Baptiste Say qui dit qu'il convient d'encourager les hommes à faire des épargnes plutôt que des enfants. Donc, on est plutôt dans cette dynamique-là. On reproche aux classes dites laborieuses de ne pas contrôler leur naissance. Finalement, c'est à partir des années, de la fin des années 1860, début des années 1870, quand justement on observe un taux d'accroissement naturel négatif, donc quand effectivement les décès sont plus nombreux que les naissances, qu'on commence à s'alarmer. On regarde de plus en plus les résultats des recensements, les résultats des données tirées de l'état civil, donc des naissances et des décès. Et ça provoque un débat national dès la fin du 19e siècle. Il y a des créations d'associations dites populationnistes, une très connue qui s'appelle l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française, qui deviendra l'Alliance nationale contre la dépopulation pendant l'entre-deux-guerres. Pendant cette période entre les années 1870 et l'entre-deux-guerres, au milieu des années 1930, on observe une forte chute de la fécondité et de la natalité qui alarme, qui fait peur à certains penseurs. Et donc, il y a un gros débat national. Et on retrouve le même type de dynamique de débat national entre 1974 et 1981, quand on observe la fin des effets du baby boom et que de nouveau on voit les naissances qui passent cette fois-ci sous le seuil symbolique des 800 000. Donc on voit qu'il y a, comme Sébastien Olivaux le disait à l'instant, il y a des seuils qui font peur, qui alarment l'opinion publique et qui créent des débats.
Maxime Sbaillon, on a le sentiment, en écoutant d'ailleurs ces propos de Sandra Bray, au regard de l'histoire, qu'il y a en matière démographique une exception française. Vous l'avez dit tout à l'heure, à une époque, des délégations du monde entier venaient en France tenter de comprendre ce qui faisait que notre taux de natalité était relativement plus élevé que la moyenne des pays riches. Est-ce que cette exception française est finie? Est-ce qu'elle est révolue désormais?
Alors, il y a plusieurs exceptions françaises. Il y en a une, et ça vient d'être rappelé, qui est historique, on a été le premier pays, contrairement d'ailleurs au schéma de la transition démographique qui voudrait que la mortalité commence à baisser avant la natalité. Nous, on a fait l'inverse. La natalité a commencé à baisser avant la mortalité, et on sait pas exactement quand, mais en tout cas, on sait que ça a été avant tous les autres pays. Donc ça, c'est déjà une exception. Après, ça a été rappelé, effectivement, ça a toujours été une obsession nationale, hein. Après, la défaite de Sedan, c'est devenu vraiment une obsession presque militaire, ça s'est idéologisé, politisé.
Pour être plus nombreux que les Allemands, notamment.
Voilà, c'était la comparaison, le nombre de soldats. Sous Vichy, il nous a manqué des soldats, il nous a manqué des jeunes. C'était la faute au ménage qui n'avait pas fait assez d'enfants. Et puis après, il y a eu cette fierté du baby-boom. Et le baby-boom français, quand même, là aussi assez exceptionnel dans sa longévité. Hein. Je vous rappelle le général de Gaulle qui fait ce discours en 45 à l'Assemblée nationale, qui dit il nous faut 12 millions de beaux bébés en 10 ans pour que la France ne soit pas une grande lumière qui s'éteigne. Et les Français auront entendu le message 5 sur 5, et même mieux, puisqu'ils auront fait 24 millions de bébés en 30 ans. C'est ça le baby-boom, hein, si on prend de 45 à 75. Et donc, oui, il y a eu toujours ce rapport à la démographie qui est différent et des tendances qui sont presque plus prononcées que dans d'autres pays. Là où l'exception, on peut dire qu'elle est terminée, c'est que nous sommes un continent européen qui est le plus vieillissant au monde, l'âge médian au-delà de 44 ans, qui est un peu l'épicentre de la dénatalité et du vieillissement. Hein. Et en fait, on était dans ce continent un petit peu à l'écart, justement, parce qu'on avait des taux de fécondité en comparaison beaucoup plus élevés, parce qu'on continuait d'avoir un sol naturel positif. Or, aujourd'hui, vous avez 20 pays sur 27 dans l'Union européenne qui sont déjà en sol naturel négatif, hein, donc qui enregistrent plus de décès que de naissances. Et nous, on est en train de rejoindre, de manière très banale, finalement, ce club et ces tendances-là. Donc, on reste un peu plus élevé que les autres. C'est vrai que je suis d'accord quand vous disiez que notre population ne va pas s'effondrer. Hein. Par contre, ce qui est intéressant de regarder, c'est que c'est pas la taille de la population qui est en train de bouger, c'est la composition.
La pyramide des âges.
La pyramide des âges qui, en fait, n'a plus rien de pyramidale. Il faut qu'on arrête de parler de pyramide.
C'est une pyramide à l'envers aujourd'hui.
Voilà, elle est en train de s'inverser, elle est en train de maigrir par des natalités par le bas, et elle est en train de gonfler par le haut, par le baby-boom d'hier qui devient un papy-boom. Le problème qu'on a avec ça, c'est qu'en France, on a tout misé sur une pyramide pyramidale. À la Libération, on a fondé le modèle social, on va fêter les 80 ans dans quelques semaines, Pierre Larocque, sur le fait que la jeunesse serait toujours majoritaire, que les générations allaient toujours se renouveler et que la pyramide serait toujours pyramidale. Or, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La jeunesse française n'est plus majoritaire. Je vous rappelle que les moins de 20 ans sont mis en minorité par les plus de 60 ans et que si ça continue comme ça, dans 15 ans, ce sera même les plus de 75 ans qui seront majoritaires par rapport aux moins de 20 ans. Vous voyez ? Donc en fait, en l'espace d'un siècle, si on fait 1960 à 2060, on aura divisé par 2 la proportion des enfants de moins de 5 ans dans la population et on aura multiplié par 3 celle des plus de 65 ans. On ne s'est jamais retrouvé dans cette situation-là. On a connu la dénatalité, on a connu des épisodes de vieillissement, mais on ne s'est jamais retrouvé dans une pyramide des âges autant inversée avec les conséquences qu'on va discuter, mais qui sont énormes, et on est en terre inconnue. Voilà, donc il faut imaginer, il faut regarder ce qui se passe au Japon, en Corée, dans plein d'autres pays, mais c'est tout nouveau pour la France.
On comprend à peu près, Sébastien Olivaux, pourquoi le nombre de morts augmente en France, hein, simplement parce que le nombre de baby-boomers, nombreux qui s'approchent de la fin de vie, continue d'augmenter tendanciellement. On comprend un peu moins peut-être pourquoi le nombre de naissances lui diminue. Est-ce que cela, on parvient à l'expliquer? Est-ce que c'est un problème, j'allais dire, de désir d'enfant? Est-ce que c'est un problème de politique publique qui accompagne mal les familles, ou est-ce que c'est une autre raison?
Bon, alors, je vais parler sous le contrôle de Sandra Bray, qui est plus spécialiste de la fécondité que moi, mais Sur les désirs d'enfants, il y a rien de très clair. Qu'on soit bien d'accord, il n'y a pas de littérature qui nous dise les gens veulent des enfants pour telle ou telle raison. Donc il y a beaucoup de... Enfin, pour un ensemble de raisons.
On sait que les couples, cependant, font des enfants plus tard dans la vie.
Ouais, alors ça, on sait
que la fécondité à cet âge-là.
Alors, on sait qu'il y a des facteurs qui retardent la première naissance. Ça, c'est assez. Le fait de faire des études plus longtemps, ça fait qu'on fait le premier enfant plus tard. Que si on fait un premier enfant plus tard, on diminue la chance d'en faire beaucoup, éventuellement. On sait aussi, l'expérience italienne, notamment, le montre très bien que le problème du logement, c'est-à-dire qu'il faut, pour faire des enfants, en gros, il faut cohabiter en couple. C'est un peu la base générale. Il peut y avoir plein d'exceptions, évidemment, mais c'est un peu le moteur principal. Ça aide, et que pour cohabiter, il faut avoir un logement, et que dans des situations de crise économique ou de tension forte sur le logement ou quoi, bah forcément, ça vous amène à retarder ce premier enfant. Et que plus on retarde le premier enfant, moins on a de probabilité d'avoir un deuxième, puis un troisième. Donc ça, c'est assez évident. Et puis par ailleurs, ce que montrent les dernières études, hein, donc l'INED vient de sortir des premiers papiers là-dessus, il y a un vrai questionnement sur l'incertitude à venir, et donc la peur des conflits, la peur économique. Et on vit en ce moment en France, on va pas se le cacher, depuis 2008 en gros, sur un discours dominant de ça va être dur demain, de on sait pas où va l'économie, on sait pas où vont les finances, et donc
ce contexte là il joue beaucoup dans le choix, dans le désir même de faire un enfant.
Alors dans le désir peut-être pas, mais
dans la décision
oui. Oui, enfin, a priori, oui.
Sandra Bray, je vous pose la même question. Quelle est là aussi la place du motif de la fertilité dans la baisse du nombre de naissances qu'on observe d'une manière tendancielle aujourd'hui en France ?
De la fertilité, c'est-à-dire la possibilité de concevoir, on sait que ça touche... personnellement beaucoup de couples, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. Ça avait été mis en avant par le président de la République, et c'est clairement quelque chose sur lequel il faut insister. Mais au niveau quantitatif, c'est probablement pas ça qui explique a priori la baisse de la enfin ce n'est pas ça qui explique la baisse de la fécondité. Par contre, je rejoins effectivement Sébastien Liveau sur évidemment, enfin ça on le sait, le recul de l'âge moyen à la maternité, effectivement surtout à la première maternité, qui a des conséquences sur les suivantes. On voit clairement qu'il y a de plus en plus, bon, il y a le modèle de focalisé sur deux enfants depuis maintenant plusieurs décennies, mais il est bien consolidé, et on voit une baisse des familles de trois enfants, une augmentation continue des personnes qui n'ont pas d'enfants. Et il faut aussi, au niveau purement démographique, on voit aussi que le creux actuel de la natalité, c'est aussi en partie une conséquence de la diminution du nombre de femmes nées durant les années 70. Donc il y a toujours aussi ce qu'on peut appeler, je sais pas, des vagues, des effets générationnels. Tous les 30 ans aussi, on a moins de naissances quand on était des générations moins nombreuses. Et sur les causes évoquées par les couples ou les femmes, ou les hommes d'ailleurs, qui ne souhaitent pas avoir d'enfants, soit aussi qui ne sont pas sûrs d'en vouloir, parce qu'on voit dans la dernière étude que Sébastien Olivo citait de l'INED, Milan Bouchet-Valla et Laurent Toulmont, qui vient de paraître en juillet et qui apporte beaucoup d'éléments, parce qu'on en avait peu sur les raisons pourquoi les couples ne veulent pas forcément d'enfants ou hésitent. Cette étude indique que 20% des 25-29 ans hésitent à devenir parents. Et effectivement, dans cette hésitation, il y a l'incertitude économique, l'incertitude également des conflits, mais aussi écologiques. C'est de plus en plus évoqué par les jeunes gens.
À ce propos, je voudrais vous faire entendre une voix que nous avons reçue l'an dernier dans Question du soir, celle de Marianne Durano. Elle est philosophe et essayiste et se demande pourquoi la natalité apparaît souvent comme une variable d'ajustement en matière de politique publique.
Je me questionne sur le fait qu'on va toujours envisager la natalité uniquement à travers une question quantitative. Combien, à quel âge, comme si finalement la natalité c'était la variable d'ajustement dans un monde qui refuse de se remettre en question quant à ses politiques économiques, quant à ses politiques sociales ou écologiques. Donc traiter la natalité uniquement avec des pourcentages et des statistiques, c'est problématique d'un point de vue politique, c'est problématique d'un point de vue moral. Ça revient à instrumentaliser l'enfant et la femme qui le met au monde au service d'un projet politique.
Qu'est-ce que vous pensez, Maxime Sbahy, de ces propos qui sont une critique en creux au fond de la variable démographique qui nous empêcherait de repenser en profondeur, hein, vous l'avez dit un tant soit peu dans notre échange, de repenser en profondeur notre modèle économique, notre modèle productif, notre modèle social?
Vous savez, ce qui est compliqué, et à la fois compliqué et passionnant avec la démographie, c'est que c'est macro, hein, pour parler comme un économiste, donc c'est une méga tendance, c'est des statistiques, des courbes, on peut le voir à différents niveaux, et en même temps c'est très micro, c'est très intime. Voilà, la décision de faire un enfant est une des décisions les plus engageantes sur la vie. Et donc, il y a cet aller-retour entre ces deux échelles qui sont pas du tout à la même altitude qu'on doit faire. Donc, on peut le voir au niveau effectivement individuel, se poser la question du désir d'enfant, quels sont les facteurs. Alors, on dit que c'est multifactoriel, mais effectivement, c'est très difficile d'aller sonder les cœurs et les âmes pour demander pourquoi on fait moins d'enfants. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est subi? Et en même temps, il faut quand même surveiller ça de près parce que notre croissance en dépend, notre modèle social en dépend, notre avenir géopolitique aussi en dépend, donc c'est toujours, on peut toujours se mettre des deux côtés et critiquer le point de vue de l'autre côté, mais je pense qu'il
faut on pourrait vous dire un modèle social, ça se transforme, ça s'arrange en fonction de la réalité démographique d'un pays. Pourquoi modifier justement, pourquoi vouloir agir, j'allais dire, sur la démographie plutôt que sur l'architecture générale de notre modèle économique et social?
Alors, sur la natalité, moi je rejoins ce qui a été dit sur le réarmement démographique. Je trouve que les mots étaient très mal choisis, puisque les femmes ne sont pas, le ventre des femmes n'est pas un obus, et les enfants ne sont pas des les ventres de femmes ne sont pas des canons et les enfants ne sont pas des obus.
Vous parlez des mots du président de la République.
Oui, donc en fait il y a toujours eu cette volonté d'idéologiser, de politiser et là de remilitariser par les mots en tout cas ce sujet. Donc c'est vrai que la démographie a toujours été extrêmement politique. Après ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que on peut s'inquiéter de la baisse des naissances si c'est une baisse qui n'est pas voulue. C'est-à-dire qu'on voit quand même dans les rares statistiques qu'on a, qui sont vraiment pas parfaites mais qui sont quand même des proxys plutôt bon sur le désir d'enfant, qu'en fait les Français veulent faire un peu plus d'enfants que ce qui est fait aujourd'hui. Et donc il y a un décalage entre la réalité et la volonté, qu'on appelle l'écart de fécondité, qui donne une certaine légitimité pour l'action publique de lever peut-être certains freins à la réalisation du désir d'enfant quand il existe. Et parmi les facteurs qui ont été mentionnés, il ne faut pas oublier une chose quand même, c'est qu'aujourd'hui, les pauvres, ce sont les jeunes. Aujourd'hui, ceux dont le niveau de vie n'augmente plus, ce sont les actifs. Ceux qui sont en première ligne pour la crise du logement, ce sont ceux qui sont en âge de procréer. Et donc, on avait calculé à l'Institut Montaigne que quand on regarde la surface habitable, quand on prend un jeune au salaire médian, il a perdu 30 à 40 mètres carrés de surface habitable dans une grande ville en France. Et donc, vous avez deux chambres d'enfants en moins. Et donc là, vous avez quand même des choses très concrètes, vous voyez, qui, en fait, peuvent venir empêcher, encore une fois, quand ils existent, des projets familiaux. Donc, il faut à chaque fois essayer de trouver, vous voyez, moi je vois avec les lunettes d'un économiste, des facteurs qui pourraient expliquer. Après, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la fécondité, c'est une liberté, ce n'est plus la fatalité que c'était par le passé. Aujourd'hui, heureusement, les femmes ont le choix. Et cette liberté-là, elle a été durement conquise. Et j'ai bien peur aussi que les discours très anxiogènes sur la dénatalité, qui viennent de certains bords politiques, considèrent qu'en fait, il faut revenir sur le droit des femmes aussi pour pouvoir retourner la tendance, ce qui est archi faux d'un point de vue pratique et moral.
Et d'ailleurs, certains exemples étrangers nous prouvent ce que vous êtes en train d'expliquer. Oui. Sandra Bray, vous souhaitiez réagir ?
Oui, je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Je suis d'accord, au niveau historique, on voit bien qu'en fait, les mesures répressives qui ont été mises en place n'ont pas eu d'effet, en fait, sur la pratique réelle des Français, contrairement aux mesures incitatives. Qui ont pu avoir
lesquelles par exemple
effet, sur toutes les aides financières, notamment les allocations familiales, etc. Et en fait, selon les populations qui sont visées par ces allocations, soit à la fin du 19e siècle, plutôt pour encourager l'ensemble des familles à avoir davantage d'enfants, aider les familles nombreuses à supporter au niveau économique, et puis à d'autres moments, plus tard au cours du 20e siècle, davantage aider certaines populations qui avaient moins d'argent, on voit que les mesures incitatives ont un effet. Et en fait, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il faut davantage Il faut aider les personnes qui souhaitent avoir des enfants. Mais pas inciter forcément, considérer que toutes les femmes, tous les couples doivent contribuer à la natalité française. Il y a des gens qui veulent des enfants et qui peuvent pas forcément les avoir pour des raisons que vous avez évoquées, soit médicales, soit économiques, etc. Il s'agit sans doute davantage d'aider ces personnes qui souhaitent avoir des enfants plutôt que de réprimer ou d'être coercitif.
Sébastien Olivo, au vu des chiffres qui ont été évoqués dans cette émission, est-ce qu'il faudra, à l'avenir, dans les années qui viennent, s'appuyer beaucoup plus sur l'immigration pour retrouver un dynamisme démographique ? Est-ce que c'est, au fond, l'unique solution qui reste dans ce domaine ?
Alors, on sait que... Enfin, il y a deux dimensions. L'immigration, évidemment, elle rapporte des nouveaux habitants dans le pays. Donc ça peut être un facteur de croissance démographique et ça va être le facteur de croissance démographique de la France dans les années qui viennent, ça y a pas de doute. On va se rappeler qu'au niveau mondial, la transition démographique, elle avance partout, l'ONU prévoit une stabilisation, voire une baisse de la population mondiale à la fin du siècle. Donc ce sera de toute façon pas une solution de très long terme. Ça peut être une solution intermédiaire, pourquoi pas.
Vous voulez dire que comme le déclin est européen et mondial, on pourra pas attirer chez nous des populations nombreuses ad vitam aeternam.
Il y a un peu de ça, oui. Oui, totalement. Il y a un bon réservoir en Afrique, absolument, qui va continuer. La transition démographique est loin d'être finie dans tous les pays africains. Il y a encore une forte fécondité, donc on va encore avoir des populations qui vont vouloir venir en Europe et qu'on pourra accueillir. Mais on sait aussi par ailleurs que quand les femmes, en l'occurrence migrantes, arrivent dans un pays, elles adoptent à peu près le niveau de fécondité du pays d'accueil. Donc c'est de toute façon pas une solution. C'est-à-dire que vous pouvez ouvrir les portes, mais ça va pas suffire. Et puis c'est une possibilité, mais c'est pas une solution. Voilà, c'est une possibilité, mais c'est pas une solution dans le sens où ça change aussi toute l'organisation du pays.
La voix d'Angela Merkel, chancelière allemande, qui il y a 10 ans, ancienne chancelière allemande, qui il y a 10 ans favorisait largement l'immigration en Allemagne, justement pour favoriser le renouvellement démographique. C'était l'un de ses arguments.
L'arrivée d'un si grand nombre de personnes va incontestablement demander des efforts de notre part. Cela prendra du temps et coûtera de l'argent. Nos valeurs, nos traditions, notre compréhension de la loi, notre langue, nos règles et règlements, toutes ces choses définissent notre société et constituent des exigences fondamentales pour une coexistence positive, mutuelle et respectueuse de tous dans notre pays.
À l'époque, Madame Merkel avait déjà estimé qu'il allait manquer 3 millions de travailleurs en 2030 et qu'il fallait bien trouver moyen de combler cette pénurie grâce justement à cette immigration. En ciblant la Syrie, on sait qu'énormément d'immigrés étaient très qualifiés, donc rapidement exploitable par rapport aux besoins de l'industrie allemande.
Cette conférence de presse tenue par Angela Merkel a 10 ans exactement, puisqu'elle avait été prononcée le 31 août 2015. Maxime Sbahy, est-ce que l'immigration est la solution en matière démographique? Ça pose évidemment des questions politiques.
En tout cas, elle l'a été pour l'Allemagne, parce que je vous rappelle qu'effectivement, il y a 10 ans, Angela Merkel fait cette conférence, elle dit son fameux « Wir schaffen das », on va y arriver. Mm-hmm. Ils y sont arrivés. Ils y sont arrivés 10 ans après ce flux migratoire, donc plus 1 million de Syriens en 2016 qui arrivent, 800 000 et un peu plus l'année d'après. 80% sont aujourd'hui par l'allemand et au-delà de 65% sont en emploi. Donc c'est-à-dire que l'Allemagne a réussi à les intégrer par la langue et par le marché du travail. Parce que l'Allemagne est en déficit d'actifs. L'Allemagne perd déjà de la population active. J'ajoute aussi qu'elle vient de le refaire avec l'Ukraine. L'Allemagne a accueilli l'année dernière à peu près 1 million aussi de réfugiés ukrainiens. C'est pas par charité chrétienne, c'est par pragmatisme économique. L'Allemagne, elle a fait de sa faiblesse démographique une force dans le sens où elle en a conscience. Elle a mis en place
structurelle par ailleurs depuis années, depuis bien plus longtemps.
Oui, le solde naturel allemand est négatif depuis les années 80-70, je crois même. Et l'Allemagne perd assez naturellement 300 000 actifs sur le marché du travail, parce qu'on parle de la population totale, mais pour l'économie, ce qui importe, c'est d'avoir des bras et cerveaux pour faire tourner l'économie. Or, quand vous commencez à avoir une décroissance de la population en âge de travailler, vous commencez vraiment à avoir un problème, parce que ça veut dire que là, l'économie, elle tourne en sous-effectif et donc elle est bridée. Et donc l'Allemagne fait appel à l'immigration et elle le fait plutôt bien. dans le sens où les immigrés travaillent, apprennent la langue, sont plutôt bien intégrés. Et l'Allemagne a une vraie stratégie d'immigration. Nous, on fait une loi immigration tous les ans et on sait toujours pas, on va refaire une, dernière nouvelle, et on va refaire une derrière. Donc nous, on n'est pas du tout encore prêt parce qu'on a aussi ce sol naturel qui reste positif. Et donc on n'a peut-être pas encore tout à fait conscience de l'importance de l'immigration. Alors après, ça a été rappelé, l'immigration, ça ne fait pas repartir la natalité à la hausse puisque la deuxième génération s'aligne presque parfaitement sur les taux de fécondité de ceux qui sont là depuis plus longtemps.
Donc ça ne peut pas être une réponse de long terme.
Alors ça peut être une réponse économique, c'est un pansement économique. Ça permet effectivement de garder le niveau de richesse nécessaire, collectif, à redistribuer. Donc c'est effectivement importer les actifs de l'étranger, ça fait sens. Après, il y a des questions, enfin l'équation elle est quand même beaucoup plus large que ça. Il y a des questions effectivement sociétales, d'acceptabilité, d'intégration, et tout ça, faut pas trop les évacuer. Vous savez, les économistes, ils ont tendance à oublier les aspects identitaires, et les identitaires ont complètement tendance à oublier l'économie. Donc c'est des fois des débats comme ça en chien de faïence qui ne marchent pas. Il y a une autre solution, hein, au-delà de l'immigration, c'est les robots. C'est-à-dire que vous robotisez votre économie. C'est ce que fait par exemple le Japon ou la Chine, qui eux n'ont quasiment pas d'immigrés pour des raisons historiques, culturelles, qui font plus de bébés. Hein. Le Japon, c'est un pays qui est déjà sur le déclin démographique, qui est depuis très longtemps en basse fécondité, et un pays très vieillissant. Et donc ils essayent d'automatiser, de compenser par la technologie finalement les humains qui manquent. Ça marche plus ou moins bien. Et d'ailleurs, on parlait de Raymond Aron. Le Japon, vous voyez, c'est un pays qui n'innove plus, qui a reculé dans tous les classements de dépôt de brevets, qui a reculé dans les créations d'entreprises, qui va perdre probablement la moitié de sa population d'ici la fin du siècle. Eux, ils misent tout sur la technologie, l'IA, les robots. C'est un pari osé, difficile à dire aujourd'hui si ça va marcher.
Sandra Bray, cette question, justement, ces liens que l'on tisse entre démographie et immigration, comment vous les abordez du point de vue historique? Ce sont quand même des liens qui sont régulièrement tissés entre les deux sujets.
Oui, tout à fait. En France, et comme dans deux endroits, mais prenons le cas français, on a fait appel à de la main d'œuvre étrangère, puisqu'il faut, si on parle vraiment en termes économiques, comme à l'instant, et on a profité de cette main d'œuvre, notamment pour les périodes de reconstruction. Donc, on a fait venir des personnes en âge de travailler, donc jeunes, de jeunes adultes, et c'est quelque chose sur lequel on s'est effectivement appuyé à certains moments, mais il y a eu des effets d'ouverture et de fermeture des frontières en France. C'est pas toujours très clair. C'est ce lien à l'ouverture. Au début du XXe siècle, on a beaucoup rejeté certaines populations. Pendant l'entre-deux-guerres, quand on parlait, il y avait beaucoup cette histoire de préserver la qualité de la population pour certains eugénistes, certaines personnes qui justement avaient peur de cette dépopulation. Et donc on voulait absolument et avoir de la population en nombre et je mets des gros guillemets sur la préservation de la qualité de la population. Donc ça pouvait être par exemple, ce qu'on considérait comme quelqu'un qui n'était pas de qualité, ça pouvait être les personnes qui étaient en prison, par exemple. Ça pouvait être les personnes qui venaient de l'extérieur, etc., où on acceptait davantage, par exemple, les personnes venant comme on disait, des nord plutôt que des sud. Donc ça, c'est dans les politiques familiales de l'entre-deux-guerres, par exemple, qui étaient pour certaines clairement eugénistes. Donc voilà, il y a des liens particuliers entre effectivement la baisse de la natalité et l'acceptation ou non de l'immigration en France.
Et face au changement climatique, Sébastien Olivaux, est-ce que là aussi la variable démographique est utile pour faire face à ces transformations environnementales profondes, on pourrait se dire, après tout, comme certains le disent par ailleurs dans le champ politique, puisque la population va se réduire, c'est peut-être la bonne voie à prendre pour atteindre la sobriété, du moins pour s'en approcher?
J'ai envie de dire évidemment. À partir du moment où il n'y a plus d'hommes sur la planète, il n'y a plus d'humains sur la planète, il n'y a plus de pollution humaine sur la planète.
Ça, mais c'est...
Mais je reste un humain et je suis très attaché à l'humanité. Donc c'est évidemment pas une solution. Néanmoins, évidemment, ce sont dans les pays où on pollue le plus par tête que la dénatalité s'amorce et que donc la population risque de se réduire. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la planète, a priori. Et oui, et puis ça va nous permettre aussi peut-être de s'adapter autrement. Enfin, je pense que là-dessus aussi, c'est-à-dire qu'on peut voir la contrainte de on va avoir moins de population, moins de naissances, etc. C'est aussi qu'on va pouvoir mettre d'autres ressources ailleurs. C'est-à-dire, au lieu de construire, on va peut-être adapter. Par exemple, juste sur la question du logement. Tiens, on n'a plus besoin de construire de logements si on n'a plus de population qui augmente. Donc voilà, donc il y a des choses qui pourraient être positives de ce point de vue-là.
Maxime Sbaillé, comment est-ce que vous liez les deux sujets, le sujet démographique et la question environnementale, écologique? Est-ce que c'est une bonne manière d'approcher les seconds?
Bah, disons que c'est une partie de l'équation, mais je pense qu'il faut faire très attention de ne pas...
C'est souvent un prétexte pour ne rien changer.
Sinon... Oui, et puis ça, alors c'est un prétexte aussi pour les pays riches de dire aux pays pauvres, finalement, le problème écologique, c'est la démographie, la croissance démographique, c'est vous, donc le problème, c'est vous. Vous voyez, et donc je trouve que c'est assez facile pour des pays riches de dire, bah, finalement, c'est la croissance démographique et la décroissance est bienvenue pour l'écologie. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que, en fait, c'est aussi les modes de vie, qui comptent. C'est-à-dire que vous pouvez être deux fois moins sur Terre, mais si vous avez un mode de vie deux fois plus carboné, ça ne changera rien du tout, au schmilblick. Donc, il faut aussi prendre en compte,
Ce que vous dire, c'est que tous les êtres humains ne polluent pas de manière égale.
Bah non, ils ne vivent pas évidemment. Pareil, ils ne consomment pas pareil, et nos modes de production ne sont pas les mêmes que dans certains pays encore en développement. Donc, c'est, tout ça est beaucoup plus compliqué et je pense que il y a un discours, il faut faire attention, parce que ce discours-là, il finit par dire finalement l'enfant est un nuisible. Et je pense, alors là on sort peut-être un peu du cadre économique, démographique, mais je pense que l'enfant est quand même une lueur avant d'être un pollueur. Je pense que c'est une boussole morale.
C'est un bon slogan, ça.
Oui, je le garde. Mais vous voyez, en fait, je pense d'ailleurs que l'éthique de responsabilité pour l'écologie, justement, c'est de dire on va garder la planète pour les générations futures, on va la préparer pour les générations futures. Or, si les générations futures sont en train de se raréfier, voire de disparaître, quel intérêt, finalement, et là on revient un peu sur l'état d'esprit, vous voyez, du pays, finalement, s'il y a de moins en moins de jeunes, moins en moins d'enfants, quel est l'intérêt de préparer le monde pour eux? Quel est l'intérêt, vous voyez, de rester un pays qui regarde l'avenir et qui croit au-delà de son propre horizon, de son horizon générationnel, et puis juste à titre vraiment individuel aussi, au-delà de son propre nombril, de regarder au-delà de soi et de considérer qu'on a une responsabilité envers tous les héritiers de l'avenir, comme on dit.
Sébastien Olivo.
Oui, je suis entièrement d'accord avec cette position. Mais dans le même temps, il faut quand même rappeler, en 1800, on est moins d'un milliard sur la planète. En 1900, on est un peu plus d'un milliard et demi. On a largement dépassé les 7 milliards. Les prévisions de l'ONU pour la fin du siècle, elles sont quand même entre 9 et 11 milliards. Donc il y a quand même encore une grosse marge avant que la population mondiale diminue et donc que ce soit de toute façon une solution, quand bien même ça pourrait être envisagé comme une solution.
C'est fou lorsque certains disent qu'on a atteint le peak child, le pic d'enfants que l'ONU daterait de 2017.
Le problème de la démographie, c'est toujours l'inertie.
C'est-à-dire
que si on arrête de faire des enfants aujourd'hui, la population, elle va pas baisser demain. Il y a toujours un temps de décalage. La fécondité française, elle s'est arrêtée il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant. Et c'est seulement aujourd'hui que les naissances diminuent et que les naissances diminuent fortement et que et qu'on a ce sol naturel qui s'inverse. Donc la question du peak child, elle est pas que là. Et puis dans le peak child, il y a aussi après il y a des Il faut toujours désagréger ces questions. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, ce qui se passe en Chine et ce qui se passe en Afrique, c'est pas la même chose. Et au niveau français, ce qui se passe dans Paris et ce qui se passe dans la Creuse, c'est pas la même chose.
Maxime Sbaillé, en quelques mots.
Oui, peak child, quand on regarde quand même les statistiques des naissances au niveau mondial, on a atteint le pic de naissance il y a 10-15 ans. Mm-hmm. Et depuis 2017, en tout cas, c'est ce que les statisticiens qui, je pense notamment Hans Rosling ou d'autres, qui ont calculé ça. Depuis 2017, les enfants de moins de 5 ans sur Terre ne croient plus, en tout cas, la proportion dans la population. Mais effectivement, il y a cet effet d'inertie qui fait que toutes les taux de fécondité élevés du passé, ce sont des gens qui vont continuer à faire des enfants. Et par ailleurs, on a un vieillissement de la population qui fait qu'on vit plus longtemps. Donc le croisement des courbes au niveau mondial entre les naissances et les décès, l'ONU dit dans son scénario moyen que c'est 2080. Mais juste pour vous donner une idée, le taux de fécondité de l'ONU, quand on prend le scénario la fécondité basse et la fécondité moyenne, elle varie juste de 0,5 enfants par femme en moyenne. À la fin, vous avez 4 milliards d'humains en plus ou moins. Donc vous voyez, les projections démographiques, c'est un peu comme une sono comme ça qu'on pourrait un peu triturer, ça peut très très vite varier de quelques